Bonjour à tous, merci d'écouter Fréquence Mistral. C'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral, proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Sommaire de ces magazines, élue à la présidence du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence, voilà 2 mois, Éliane Bareil affiche dynamisme et volontarisme. Interview dans un instant. Le centre communal d'action sociale de Manosque offre ordinateurs et tablettes pour lutter contre la fracture numérique. Reportage dans ce magazine. Briançon, une association accompagne des publics défavorisés vers les sommets. Susanna Wright a interviewé Aurélien Bresse, qui est coordinateur pour 82 4000 solidaires. À Marseille, les petits frères des pauvres agissent contre l'isolement des personnes âgées. Le reportage de Colline Jutet pour Force 7. Et puis, cette année encore, Philippe Serran, pianiste à vélo, parcourt les routes de Provence. Interview en fin de magazine. Le département est de retour, déclare Éliane Bareil.
Élue présidente du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence, voilà 2 mois, Éliane Bareil affiche volontarisme et dynamisme. L'ancienne maire de Maligé, précédemment vice-présidente de la région, bénéficie d'une expérience de terrain indéniable. Cela lui est utile pour tenir les rênes d'un exécutif départemental où elle peut s'appuyer sur une majorité confortable de 22 conseillers sur 30. Au menu de ses travaux depuis 2 mois, des visites et contacts en nombre pour mener à bien son programme. Dans celui-ci, son projet du pôle montagne pour aider notamment les stations de ski, sans oublier celles de basse altitude. Des travaux réguliers d'entretien sur les routes avec une lutte contre les éboulements et un accent sur la route des Crêtes à Castellane ou encore celle du col d'Alos. Un soutien aux petites communes avec des aides techniques pour accéder aux fonds européens, par exemple. Le partenariat avec l'AD04, agence de développement, dont le rôle touristique est essentiel. Une attention particulière aussi à l'agriculture, où la main-d'œuvre est déficitaire. Les collèges vont faire l'objet d'un vaste programme, nous en reparlerons. Autre compétence majeure du département, le social, pour lequel Mme Bareil prône un travail étroit avec les entreprises pour faire des propositions aux bénéficiaires du RSA. Ils sont 4500 dans le 04. Et si la nouvelle présidente a donné à l'ancienne équipe un satisfecit pour la situation financière, elle regrette l'absence d'une véritable politique en direction de la jeunesse. Il faut qu'on soit présent partout où ce sera nécessaire, a-t-elle précisé. C'est un programme ambitieux qu'avance Éliane Bareil, qui a également présenté les membres de son cabinet, dont la feuille de route est déjà bien fournie. Écoutons la nouvelle présidente du CD04. Éliane Bareil, vous avez effectué votre rentrée politique au niveau du département des Alpes de Haute-Provence et vous avez passé 2 mois très actifs depuis que vous êtes élue.
Oui, très actif. Je dois vous dire que j'ai passé beaucoup d'heures ici dans ce bureau du département parce que tous les jours, j'avais un chantier, je lançais un chantier, j'étais déjà très présente sur le terrain pour voir ce qui s'était fait et j'ai cherché réellement à faire aboutir un certain nombre de dossiers tout de suite en arrivant. Donc effectivement, très très active et je veux absolument qu'on garde ce rythme parce que ce département a besoin de retrouver du dynamisme.
Pour mettre en œuvre votre feuille de route, vous avez également fourni votre propre cabinet.
C'est ça. Depuis ce matin, il est au complet. Donc, j'ai un cabinet avec un directeur de cabinet adjoint, un collaborateur et des secrétaires. Depuis ce matin seulement, donc vous voyez, j'ai travaillé sans avoir un cabinet complet depuis presque 2 mois. Mais on va maintenant travailler ensemble et ça va me permettre d'avoir un peu plus de temps libre pour aller sur le terrain.
Les dossiers ne manquent pas ?
Beaucoup de dossiers très importants. Et là, bientôt, bien sûr, la rentrée dans les collèges, où je vais faire des annonces sur un plan collège, de façon à ce qu'on se projette aussi sur la durée du mandat.
Il y a aussi des inquiétudes dans le domaine de l'emploi, évidemment, avec un volet insertion qui a été confié à Camille Galtier, le maire de Manosque.
Alors en fait, c'est un service qui est mis en place à la demande du gouvernement, un service d'insertion pour l'emploi. Donc on commence à travailler dessus, les services ont commencé à travailler dessus. L'idée, c'est de se dire, tous ces gens qui sont loin de l'emploi et qui aujourd'hui perçoivent le RSA, aidons-les à trouver de l'emploi par la formation, par des relations privilégiées avec le monde de l'entreprise. Ce sera gagnant-gagnant. Eux, ils auront du travail et nous, on réduira nos charges de fonctionnement.
Vous allez également développer des partenariats, notamment avec l'AD.
Bien sûr, avec l'AD, nous avons déjà des partenariats, puisque l'AD, c'est une émanation du département quand même, et nous travaillons vraiment bien avec l'AD. Simplement, l'idée quand même pour l'AD, c'est de renforcer. Ils ont des besoins plus importants, il faut absolument qu'on arrive à leur donner des financements supplémentaires pour porter toutes les nouvelles problématiques que je souhaite développer.
Vous avez proposé de créer un service montagne avec notamment en ligne de mire les questions des stations de ski.
Oui, j'y tiens parce que je me suis rendu compte dans les années passées qu'en fait on parlait essentiellement de Praloux-le-Sauz et la Foudalos. Or, dans ce département, nous avons un certain nombre de stations qui évidemment sont plus petites, mais sont des stations de faible ou de moyenne altitude qui n'ont pas tout à fait les mêmes problématiques que Praloux ou la Foudalos. Et je ne veux pas qu'on les oublie.
Il y a également des soutiens à l'agriculture qui sont ô combien importants et vous allez être présente très prochainement aux Terres du Gym à Corbières.
Oui, bien sûr, c'est un dossier que j'avais porté à la région et que l'on porte aussi au niveau du département. Je serai présente bien sûr à Corbières et puis concernant l'agriculture, je pense qu'on n'a pas le droit de ne pas y être parce que c'est un département exclusivement rural et pastoral. Nous devons être aux côtés de nos agriculteurs. Alors certes, la loi NOTRe a donné la compétence à la région, mais au travers de la convention qui a été signée entre le département et la région, nous serons quand même présents, notamment sur les grosses problématiques. Je parlais tout à l'heure d'hydraulique agricole, il y a quand même des chantiers importants, il faut que nous soyons présents.
Et puis on l'a vu dernièrement, si je vous dis un mot, si je vous dis lavande par exemple, là il y a une problématique qui est en train de naître.
Tout à fait. Nous avons répondu présent immédiatement aux côtés de Renaud Muselier qui porte donc la défense de la lavande, mais pas que, des huiles essentielles plus globalement. Nous avons souhaité être aux côtés de la région. Nous le serons jusqu'au bout pour la défense de nos territoires parce que la lavande, c'est pas que l'agriculture, c'est aussi un pan très important d'économie touristique que nous devons soutenir.
Également les sous-traitants et je pense notamment à la cosmétique.
Bien sûr, la lavande, on la retrouve partout. On la retrouve, bien sûr, chez les parfumeurs. C'est aussi un énorme potentiel à l'export. Donc tout cela, il faut absolument que nous soyons présents. C'est quelque chose comme 20 millions de chiffres d'affaires qui s'en vont à l'export. Donc c'est extrêmement important que nous soyons présents aux côtés de nos agriculteurs et de nos lavandiculteurs en particulier.
Dernière question, Eliane Barret, comment ça se passe au niveau du conseil départemental? Vous êtes présidente depuis 2 mois, l'ambiance qui règne?
Ça se passe plutôt très bien. Alors avec ma majorité, ça se passe très bien. Tout le monde prend ses marques petit à petit. C'est pas simple parce que on n'a pas eu de passation du tout, donc on se retrouve devant l'ensemble des dossiers. J'ai la chance, moi, d'avoir un peu d'expérience avec la région, mais c'est quand même pas simple. Mais vraiment, dans la majorité, tout le monde est sur les starting blocks et a pris à cœur de prendre ses fonctions. Après, avec l'opposition, nous avons quelques petits soucis, mais de moindre importance, et je veux pas que la polémique enfle. Nous avons fait des propositions. Certains postes n'ont pas été pourvus par l'opposition, mais aussi parce qu'ils ne l'ont pas souhaité. Donc, voilà, je veux pas que ça soit... L'action du département ne se résume pas à la polémique avec l'opposition.
Une action sociale numérique.
En offrant gratuitement ordinateurs et tablettes, le Centre communal d'action sociale de Manosque agit efficacement contre la fracture numérique. Déjà en 2018, l'ouverture du grenier numérique enfonçait un coin dans l'électronisme, cet état d'éloignement des compétences nécessaires à l'utilisation d'outils numériques. encadré par Gomme CVD, de nombreux manosquins, et notamment des personnes âgées, ont été initiés aux méandres de l'informatique et de l'Internet. Et là, avec des fonds européens et des partenariats, État, la caisse de retraite ou encore DLVA via la politique de la ville, le CCAS peut offrir une centaine d'ordinateurs et 50 tablettes à des personnes en demande. Régis par des conventions individuelles, ces outils bénéficient aussi d'accompagnement spécifique au grenier numérique. À noter également que grâce à des dons de la ville de Manosque ou d'entreprises, d'autres ordinateurs sont reconditionnés afin de rejoindre le parc déjà conséquent. En tout, 40 machines s'ajoutent donc au matériel neuf. La première distribution des ordi et tablettes s'est déroulée en mairie et il reste encore beaucoup de machines à disposition du public. Pour cela, il faut contacter le CCAS 04 92 74 47 40 04 92 74 47 40. Je vous propose d'écouter la directrice du centre, Karine Colson, mais d'abord Jocelyne Coste-Lennon, adjointe au maire de Manosque. Jocelyne Coste-Lennon, vous êtes adjointe au maire et en même temps vice-présidente du CCAS. Quelle est cette opération de distribution des ordinateurs ?
On s'est rendu compte pendant la crise du Covid qu'il y avait un véritable manque en matière de numérique auprès de la population des foyers. Une personne sur six actuellement n'utilise pas Internet et au niveau des plus de 75 ans, c'est une sur deux qui n'a pas accès à Internet depuis son domicile. Or, tout aujourd'hui passe ou presque par Internet. Que ce soit pour prendre un rendez-vous médical, pour consulter ses résultats d'analyse de laboratoire, pour gérer ses comptes bancaires, pour prendre rendez-vous auprès d'une administration. On n'a qu'un contact qui est numérique. Donc, cette crise nous a révélé le manque d'équipement et avec l'aide de l'Europe, nous avons pu avoir 100 ordinateurs portables et 50 tablettes plus embaucher un autre médiateur pour le grenier numérique.
Alors justement, le grenier numérique est à la disposition des personnes, des manosquins, depuis déjà 3 ans. Ça fonctionne bien ?
Oui, ça fonctionne très bien. Actuellement, il y a 136 personnes qu'ils fréquentent de manière régulière. C'est-à-dire que sur ces 136 personnes, elles sont allées au moins 8 fois depuis le début janvier au grenier numérique pour suivre une formation ou simplement pour demander des renseignements sur tel ou tel sujet. C'est quelque chose qui fonctionne très bien avec le médiateur Gomme, notre médiateur, qui a beaucoup de pédagogie et qui enseigne tout ça de façon très ludique. Et ça crée une ambiance très chaleureuse qui est très appréciée de ceux qui le fréquentent.
C'est la première opération de distribution de ces ordinateurs. Il y a une quinzaine d'ordinateurs et de tablettes qui ont été distribués, mais il y en a d'autres.
Aujourd'hui, c'était restreint à cause des conditions sanitaires. Mais bien entendu, il y en aura d'autres. Nous avons traité actuellement une cinquantaine de dossiers. Donc, on peut dire qu'il va y avoir encore une distribution de 40 ordinateurs et tablettes portables. Pour l'instant.
Avec une convention qui est passée avec les personnes qui en profitent et qui, de manière évidente, n'auront pas à vendre cet ordinateur. Tout cela est bien répertorié et bien sensibilisé au niveau du public.
Oui, oui, ils se sont engagés, ont signé une convention. Dans cette convention, il y a effectivement, ils ne doivent pas revendre le matériel qu'on vient de leur confier. Mais également, ils ont passé avant des tests au grenier numérique pour savoir quelles étaient leurs compétences en matière justement de maniement d'un ordinateur et d'une tablette. Et je crois qu'ils ont été ravis et ils vont continuer à venir.
À vos côtés, Karine Colson qui dirige le CCAS de Manosque. C'est un dispositif qui lutte contre l'électronisme.
Tout à fait. On s'est rendu compte que c'est pas uniquement l'usage, mais que surtout il y avait des personnes qui étaient vraiment pas équipées.
Comment est-ce que ça se passe ? Les gens viennent vous voir pour vous dire on a besoin de renseignements ou on aurait besoin d'un ordinateur, on n'a pas les fonds pour se l'acheter ?
Alors, à aujourd'hui, pas directement, c'est surtout via le réseau social de Manosque, où des associations nous adressent des personnes. Mais en fait, tout un chacun pourrait télécharger le dossier de demande sur le site de la ville, ou venir le retirer au CCAS, à l'accueil, et le remplir en justifiant ses ressources, puisque les conditions, c'est d'abord habiter Manosque, des conditions de ressources, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment les moyens de s'acheter un ordinateur qui est quand même déjà une dépense importante, en expliquant que l'on en a besoin. Et ensuite, le dossier est étudié, passe en commission.
Alors, il y a des fonds européens, il y a aussi des aides par des partenaires publics et privés. Et puis, moi, j'ai remarqué quelque chose de particulièrement important, c'est qu'un bénévole vous aide pour reconditionner des ordinateurs que l'on vous confie et qui, après, auront une seconde vie.
Tout à fait. On avait monté déjà ce processus de reconditionnement des ordinateurs dans un esprit d'éco-responsable, parce que chacun ou les entreprises ont des ordinateurs qui renouvellent régulièrement dont ils n'ont plus besoin. Et donc, on les récupère. Et puis, on a un bénévole qui accepte de les reconditionner de manière à pouvoir les redonner au public qui en ferait la demande.
Et ils viennent agrémenter déjà le matériel qui est disponible.
C'est ça. Actuellement, on a exactement 40 ordinateurs déjà reconditionnés. Et puis, au fil du temps, on va continuer cette opération qui ne limitera pas donc à cette opération financée par le Fonds social européen et qui pourra perdurer dans le temps.
Pour obtenir un ordinateur ou en tout cas des renseignements, comment est-ce que ça se passe?
Eh bien, le mieux, c'est d'aller soit sur le site de la ville, où vous aurez toutes les informations, mais donc, déjà, il faut maîtriser le numérique. Donc, si c'est pas le cas, eh bien, venez au CCAS ou téléphonez au CCAS et on vous donnera toutes les informations et les dossiers à remplir. On vous donnera s'il faut.
Au sommet avec l'association 82-4000 Solidaires.
L'association briançonnaise 82-4000 Solidaires a été créée en 2012 par des guides et amoureux de la montagne. Elle rassemble des bénévoles de tous horizons qui se mobilisent pour organiser et partager des stages d'alpinisme avec des personnes issues de milieux défavorisés. L'alpinisme est un rêve qui a la force de relever une personne et la mener toujours plus haut. Mais il se trouve être injustement inaccessible aux personnes défavorisées. L'association a déjà fait rêver des jeunes adultes de bien des quartiers populaires de France, Belgique et Suisse. Coordinateur pour 82-4000 Solidaires dans les Hautes-Alpes, Aurélien Bresse répond aux questions de Susanna Wright et annonce un rendez-vous le 11 septembre à La Grave.
Aurélien Bresse, vous êtes coordinateur de 82-4000 Solidaires. Une présentation de l'association et ses activités.
Oui, je travaille pour 82-4000 Solidaires, qui est une association qui est née à Briançon. Et c'est des guides de haute montagne qui sont passionnés de l'alpinisme, qui ont eu envie de le partager à ceux qui ont été le plus éloignés, donc des personnes qui vivent l'exclusion sociale et la précarité économique dans nos pays. Et l'activité principale de l'association est d'organiser des séjours de découverte de la haute montagne sur 5 ou 6 jours pour les participants, et tout l'encadrement est réalisé par des bénévoles, qu'ils soient alpinistes amateurs ou professionnels comme des guides de haute montagne. Et pour mener à bien toutes ces activités, l'association s'appuie aussi sur quelques salariés. Il y a 2 personnes qui s'occupent de l'organisation des séjours, une personne sur Briançon et une personne à Annecy et Chamonix. Il y a un directeur, Hugues Chardonnet, qui organise plutôt la vie de l'association et puis la recherche de partenariats et de financement. Et puis 2 autres personnes, une qui s'occupe plutôt de la communication et quelqu'un sur de l'administratif.
Et en juin, vous avez vécu le 100e stage de l'association pour 4012 journées partagées quand même.
Oui, ça se fête, c'est un bel événement qu'on a vécu. Et en plus, c'était un stage qui s'est déroulé dans une nouvelle antenne de l'association, une nouvelle délégation qui se trouve en Haute-Savoie, toute jeune, elle a tout juste 1 an. Et donc l'association vit depuis 2012 divers séjours avec des associations qui viennent de Marseille, de Paris, de Lille, de différentes villes en France principalement. Et voilà, cette année, on va avoir vécu 20 de séjours avec environ 200 personnes qui sont venues en vacances pour découvrir la beauté de la haute montagne.
Et par exemple, vous avez fait quoi cet été, hein?
Eh bien, cet été, les événements marquants, on peut citer en particulier l'ascension d'un sommet de 4000 mètres d'altitude en Suisse, à la frontière entre la Suisse et l'Italie, donc c'est la pyramide Vincent, où il y avait 5 jeunes et moins jeunes personnes qui ont réussi cette ascension magnifique. Voilà. Et puis, mercredi 25 août, il y a une nouvelle toute petite équipe de 2 ambassadeurs, on appelle ça comme ça nos stagiaires qui ont été passionnés par la montagne et qui ont envie de continuer à vivre cette expérience. Donc ils ont également vécu cette joie d'arriver au sommet d'un des plus beaux sommets des Alpes, donc un sommet de 4000 mètres également.
Ils étaient ravis de faire ça, d'arriver tout en haut.
Oui, ils étaient étonnés d'y être arrivés. de se rendre compte qu'ils étaient capables et de l'avoir vécu en groupe, c'était quelque chose de fort. Et oui, ça prouve que la montagne, elle est accessible à tous. Il y a des moyens à mettre en place pour le vivre ensemble et que ce soit une vraie réussite. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent ou d'être très sportif pour découvrir ce milieu qui est magnifique.
Et vous avez créé aussi un chantier solidaire. Qu'est-ce que c'est, hein?
Donc, à Briançon, le diocèse des Hautes-Alpes nous a confié un chalet qui commençait à vieillir et dans lequel on accueillait certains groupes pour venir découvrir la haute montagne. Le diocèse nous a confié ce chalet pour le mettre à disposition de personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont en difficulté et qui aimeraient venir en vacances à la montagne. On se rend compte que ce qui coûte le plus cher dans des vacances à la montagne, c'est l'hébergement. Et donc on s'est dit, ce serait super de créer un lieu beau, accueillant, qui puisse recevoir des personnes qui n'auraient pas les moyens de venir autrement. On rénove le chalet, on l'agrandit pour que différentes personnes puissent en profiter. Et donc c'est un chantier solidaire parce que il est financé par de la solidarité, à la fois des entreprises locales et puis des fondations et des individus qui nous donnent de l'argent pour ça.
Et le 11 septembre, à la Grave, vous organisez un événement, c'est la 6e édition.
Oui, cet événement, c'est la rencontre de la montagne partagée. C'est une journée porte ouverte pour découvrir ce que vit l'association et en particulier l'expérience de nos stagiaires, qui est une expérience magnifique et qui nous fait tous grandir. Donc c'est un événement ouvert à tous, donc vous êtes les bienvenus. C'est à la Grave, pas très loin de Briançon, sur le thème « La montagne m'a réveillé ».
Comment vous rejoindre, vous soutenir et retrouver vos informations?
Je vous invite à venir nous rencontrer, en tout cas le 11 septembre à la Grave. Vous pouvez aussi prendre un peu des infos sur l'association sur notre site internet ou sur le Facebook de l'association. Et puis, on a toujours besoin de bénévoles ou de soutien. Donc n'hésitez pas à nous contacter également, vous trouverez toutes les infos sur le site internet.
Les petits frères des pauvres, un repas musical au Magnier.
Cette association caritative lutte au niveau national contre l'isolement et la solitude des personnes âgées, en particulier les plus démunies. Les petits frères des pauvres permettent aux personnes accompagnées de recréer des liens et de reprendre goût à la vie tout en incitant à un changement de regard sur la vieillesse. À Marseille, l'association intervient sur le territoire, notamment avec des équipes spécifiques d'accompagnement vers le logement ou encore pour les personnes gravement malades et en fin de vie. Dans la cité phocéenne, une pension de famille est ouverte pour des résidents en grande précarité dans le premier arrondissement, ainsi qu'une maison d'accueil à la journée, campagne Le Magnier, dans le 12e arrondissement. Des sorties estivales y sont organisées pour animer l'été des personnes âgées. Colline Jutté a pu assister à un repas musical en compagnie d'Anne Salvador, responsable du Magnier, Julie Gruyer, chargée de communication régionale et d'une belle équipe de bénévoles et de personnes accompagnées.
On est sur un petit îlot de verdure qui s'appelle le Magnier. Anne Salvador, vous êtes responsable de l'accueil à la journée. Vous pouvez un peu me décrire le lieu, les activités qui s'y passent.
Ici, donc, c'est une maison d'accueil à la journée pour les personnes âgées isolées qui ont pas ou peu de contact avec leur famille, leurs amis, leurs voisins. Dans ce lieu, ce sont des bénévoles qui mènent l'action, qui vont chercher des personnes âgées où qu'elles habitent. Ça peut être à domicile, en maison de retraite, à la rue ou à l'hôpital. Les bénévoles vont les chercher chez eux, les emmènent ici. Ici, ils passent une journée conviviale autour d'un repas. Bien souvent, l'après-midi, pour que ce soit plus festif, on fait venir un musicien ou une animation.
Est-ce que tout va bien?
Oui.
Vous avez bien mangé?
Oui.
On va essayer de faire de la bonne musique. Après le bon déjeuner, le bon repas que vous avez dû
faire. C'est une maison qui est ouverte 7 jours sur 7 tout au long de l'année. Et c'est vrai que juillet-août, on met le paquet pour que ça fasse vacances. Alors aujourd'hui, on attendait 35 personnes. Je vois qu'il en manque encore. Il y en a peut-être qui vont arriver. Et il y en a qui n'ont pas pu sortir de leur maison de retraite parce qu'il y avait un cas contact dans la maison de retraite. Et voilà, tout le temps, il y a un cuisinier qui fait le repas avec des bénévoles qui accueillent le groupe de bénévoles. Bénévoles et de personnes âgées.
Vous êtes bénévole depuis longtemps?
Trois mois. Mais alors moi, j'arrive de Suisse. J'étais soignante en Suisse dans un dans un EHPAD. Et puis, j'ai pris ma retraite. Okay. Et je me suis dit, bah, plutôt que voilà, de rester là-bas, ce serait bien que je vienne faire en France ce que j'aimais faire en Suisse, en me rapprochant de ma maman et de mon fils qui habite Marseille. Donc, je suis arrivée en plein Covid. Je ne connaissais personne. Et j'ai postulé sur Internet, sur la Croix-Rouge, sur les petits frères. Et puis, c'est les petits frères qui ont répondu.
Et vous êtes à quel endroit ?
8e. Marseille 8e. Je suis Marseille Sud pour les petits frères. Okay. C'est plein de petits plaisirs, voir leur sourire et de prendre le temps de les regarder toutes une par une dans les yeux.
Ouais.
De dire, voilà, là je suis avec vous. Et elles sont super remerciantes, elles sont contentes. Ce matin, j'ai fait quelques ongles, j'ai coupé des ongles. Tout à l'heure, je vais épiler des mentons ou raser des mentons. Donc ici, ben voilà, on passe du temps à prendre soin.
Chaque fois, c'est le même accueil sympa. Franchement, ça me fait un bien énorme. Et pour des raisons très, très personnelles, hein, rien de voir un jardin.
Vous êtes chez vous.
Depuis que je suis ici, je fais de la peinture.
Ah, c'est chouette ça.
Qu'est-ce que vous voulez comme fromage?
Et je fais des expositions.
Ah oui?
Qu'est-ce que vous voulez comme fromage?
Il y a du camembert, du chèvre, du roquefort, du roitelet.
Du chèvre.
Les personnes âgées, ce sont en général les personnes accompagnées par notre association. Et ça peut être quelquefois des personnes accompagnées par d'autres associations qui aident des personnes âgées en difficulté.
Vous êtes combien à travailler ici dans cette structure, mais aussi sur Marseille aux petits frères des pauvres ?
Alors sur Marseille, il y a à peu près 400 personnes accompagnées et 250 bénévoles. Au niveau des salariés, en ce qui concerne l'accueil de la maison, il y a donc moi en tant que responsable et le cuisinier. Et après, ce sont des salariés administratifs qui s'occupent de toute la région.
Depuis combien de temps vous avez ce lieu magnifique ?
Alors, nous avons ce lieu magnifique depuis 20 ans, donné par Odette Auclair, qui était infirmière dans le quartier et qui voulait que sa maison serve aux personnes âgées pauvres. On devait faire une maison de retraite, mais c'est pas quelque chose que fait l'association. Donc on a préféré l'accueil à la journée pour accueillir un public différent tous les jours. Tous les jours, ce sont des personnes différentes qui viennent. Et on a la chance d'avoir cette maison qui est magnifique et qui nous permet d'offrir le plus beau au plus isolé. On a un grand jardin, les personnes âgées peuvent en faire le tour, les bénévoles l'entretiennent, les personnes âgées donnent un petit coup de main. Voilà, ça permet à la fois de sortir de chez soi et en plus de se retrouver dans la nature.
Ça va faire votre journée.
Elle était si contente de monter là-bas.
Ça va?
Haute-Provence, son vélo donne des ailes à son piano.
C'est un artiste et sportif original. Philippe Serran, le pianiste des Lacs, se lance à l'aventure sur les routes de Provence pour donner des concerts. La particularité, il déplace son piano à vélo et porte avec lui musique et poésie dans les fermes, les jardins, les ateliers, les usines, dans des lieux où l'on travaille. Pour lui, l'itinérance à vélo est un acte poétique, à l'instar des saltimbanques qui parcouraient les routes, une tradition millénaire. Serres, Ribier, Fort-Calquier, Reillanne, Viens ou encore Gap et d'autres communes vont accueillir Philippe Serran. Ce dernier donne son programme et explique sa démarche pédalée au micro de Chris Alessandri.
Philippe Serran, peut-être la meilleure façon de vous présenter, c'est de reprendre un de vos textes. Vous allez au vent, sur les routes de France. Votre pays, c'est l'irrévérence. Et je ris au puissant d'un seul cri, d'une seule voix, à la vie, à la joie. Philippe Serran, est-ce que c'est la meilleure façon peut-être de définir le personnage que vous êtes?
Ah, ça me touche beaucoup que vous entriez en matière en citant ça. C'est clairement je suis à plein de facettes, mais celle-ci, je l'assume totalement, j'assume l'envie de liberté, d'irrévérence. On en a tellement besoin, de la tradition de l'irrespect finalement, voilà.
Il y a toujours beaucoup d'humour. Hein. Alors bien sûr, il y a ce côté provocateur que vous avez, un peu acidulé, mais tellement plein d'esprit aussi.
Moi, je pense qu'on a un moment où, chez les artistes en particulier, enfin, moi, je fais ce métier depuis un certain temps. Il y a cette citation de Romain Gary que j'adore, qui dit que la culture, si c'est pas un engagement total à changer la vie, c'est une poule de luxe. Donc, j'aime l'idée que l'art puisse être un des moyens pour secouer un peu le cocotier, faire bouger les lignes, réveiller un peu tout le monde en sursaut. On vit une époque un peu compliquée, quoi. Un petit peu difficile où, on court dans le mur. Et on est tous là à s'en rendre compte et à se dire, mais il faut qu'on change nos vies, qu'on arrête, qu'on s'y prenne complètement autrement. On ne veut plus de cette course au suicide, voilà. Alors, je pense que la musique, la poésie et l'humour sont un des moyens d'élargir, en fait, l'horizon, d'élargir l'esprit, de voir d'autres possibles.
Et justement, cette façon de changer la vie, vous-même, vous l'avez appliquée déjà depuis un certain temps. Vous allez par mots et par mots, comme vous dites. Vous apportez la poésie carrément au cœur des villages. Comment ça se passe avec le piano vélo?
Ben, ça, c'est une idée que j'avais depuis déjà pas mal d'années. En fait, au départ, j'ai fait des tournées à vélo sans piano. Donc, j'étais tributaire, il fallait que je me rende dans des lieux où il y avait déjà des pianos. Il y en a, Dieu merci, un certain nombre, mais c'est quand même une grosse contrainte. Et ça m'avait traversé l'esprit. Je m'étais dit, non, mais ça serait génial de pouvoir me déplacer avec mon vélo, mais également avec mon piano. Donc, ça me travaillait un petit peu. Et puis, c'était l'époque, moi, j'ai fait beaucoup pendant des années le piano du lac, où déjà, on avait cet esprit d'amener des pianos, alors là, sur l'eau, mais enfin, dans des lieux qui ne sont pas prévus pour, quoi, sur les lacs. J'adore cette poésie d'amener la musique, que ce soit en pleine nature. Je vais beaucoup dans des lieux où finalement, des lieux de production, des fermes, des usines, des hangars, des ateliers.
Mais vous créez l'événement autour de vous. Vous avez parlé du piano du lac, il y a le Festify, il y a le Venart aussi que vous avez créé.
Oui, ben moi j'aime le métissage des esthétiques et j'aime les rencontres. C'est vrai que là où j'habite à Vennes, je me suis très vite embarqué dans des tas d'aventures collectives qui ont permis de mélanger des artistes de plein d'horizons différents. Donc le Festify a été pour moi, je dirais, vraiment le point d'orgue de cette époque-là. On avait mélangé chansons, musique, art plastique, théâtre. Et c'est vrai que ça a été un creuset pour d'autres expériences qui ont depuis fleuri. Après avoir passé toutes ces années à brasser pas mal de monde autour de ces différents projets, je me suis recentré, en fait, et je travaille actuellement principalement en solo. Donc, notamment sur ce projet incroyable là, du piano-vélo, où du coup, voilà, je parcours la campagne, la montagne, avec mon piano et mon vélo.
Vous faites vraiment un véritable slalom, hein. Vous faites le tour des Alpes en piano-vélo. Techniquement, comment ça se présente?
Bah, en fait, le problème du piano, c'est le poids. Donc, j'avais un tout petit piano droit, même très compact et aussi petit qu'il soit, il fait encore 140 kilos. Donc 140 kilos sur un vélo, on comprend tout de suite que c'est quand même une affaire un peu compliquée. Donc la solution, ça a été l'assistance électrique. Donc au départ, moi je suis parti avec un triporteur chinois qui était déjà motorisé, ça marchait très bien mais à plat. On a rajouté un second moteur et j'ai pu comme ça relever le défi de faire, maintenant j'en suis à plus de... J'ai fait déjà 3 tournées dans le 0,4 et le 0,5.
En 10 ans, vous avez plus de 500 concerts au total que vous avez réalisés.
Bah oui, parce qu'à force effectivement de faire tous ces projets, et ben on rencontre quand même beaucoup le public et je commence à en avoir un petit peu au compteur et c'est assez chouette. On porte sur soi pendant le temps de scène l'intégralité des énergies en jeu. Quand on commence à s'installer, à être bien dans cet exercice, ça devient vraiment un sacré bonheur.
Philippe Serran, vous êtes donc auteur, compositeur, pianiste, chanteur. Dites-moi, quand vous sillonnez les routes avec le piano vélo, vous faites escale systématiquement de spectacles en festival, le quotidien. Alors comment ça se passe quand vous êtes en tournée? Il y a des refuges, vous trouvez asile chez des personnes?
Ah, mais ce qui est génial par rapport à toutes les autres formes de tournées que j'ai fait jusqu'à présent, c'est qu'en fait là, je mélange la poésie des concerts avec la poésie du voyage. Parce que le voyage à vélo, toutes les personnes qui le pratiquent le savent très bien, et ben c'est un truc unique, c'est un truc magique. D'abord, on est engagé physiquement, donc on a des tas de bonnes hormones qui nous font voir le monde encore plus beau que ce qu'il est. Ensuite, on se déplace lentement, donc on voit les choses et on rencontre les gens. Il y a le long du trajet, moi j'arrête pas, il y a des gens des fois qui s'arrêtent, des fois il y a des gens qui me doublent et qui s'arrêtent au virage suivant et qui me demandent mais qu'est-ce que c'est, voilà, c'est un tri, voilà, parce que c'est quand même un véhicule tout à fait inhabituel.
Philippe Serran, alors vous pédalez, vous chantez, il y a l'énergie certes de la poésie, hein, vous l'avez dit, mais c'est très très physique, face au col sur l'Isère, le Champsaur, la Drôme également, il faut être sacrément entraîné pour tout ça aussi.
Bah, Bon, moi, j'aime ça. J'adore l'engagement physique. Je trouve que c'est un des, enfin, moi, c'est une des choses qui me nourrit beaucoup. Après, voilà, ben, on retrouve toutes ces dates et toutes les infos pratiques, les horaires, les lieux, etc., les accès sur le site philippeserran.com, sur lequel il y a également toute la présentation de comment m'accueillir. Et si vous m'entendez, que vous avez, êtes curieux de ça, ben, allez voir sur ce site. Et il y a également pianovelo.fr.
Philippe Serran, pour parler donc de vos spectacles, prochain rendez-vous.
Et ben là, à Serres, vendredi 3, et à Ribier, le samedi 4. Je poursuis dans le 04. Alors, à Noyer-sur-Jabron, le 8. À Cruy, le samedi 11. Et Viens, c'est dans le 84, dans le Vaucluse, dimanche 12. Et Réanne, le lundi 13. Et ensuite, je remonte sur Fort-Calquier, puis Château-Arnoux, Curban, à côté de la Solse. Je remonte là dans le 05, le 19. Et je termine à Gap.
C'est la fin de ce magazine. Merci François. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Force 7.
Tout à fait. Merci Olivier pour la régie. À la semaine prochaine.